te prions pour Paul, pour les paroles qu'il a reçues, pour la méditation qu'il a préparée. Bénis-le abondamment, Seigneur. Amen.
Bien, bonjour à chacun et à chacune. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être au fond de la salle, étant si tout à fait au dernier rang, je me suis rendu compte combien il est important, d'une part, de bien parler dans l'axe du micro, mais de l'autre part, pour celles et ceux qui sont devant et qui partagent des pensées, vous encourager à ne pas avoir peur, à parler un peu plus fort et distinctement, pour bénir celles et ceux qui sont au fond et qui ne vous ont pas bien écouté ce matin. Quelle grâce, quelle joie, quel privilège de se retrouver ensemble dans une configuration nouvelle depuis dimanche dernier. J'espère que vous vivez ce changement avec une certaine paix, je vous le souhaite en tout cas, considérant que ces changements ne sont pas l'essentiel de notre vie, et même si ça peut parfois avoir quelque chose de perturbant, sachons pouvoir les accueillir sereinement et les vivre avec autant de sérénité, notamment lorsque nous cherchons les solutions qui concernent la sécurité et l'accessibilité aux issues de secours. J'étais dimanche dernier dans une petite église de notre union, à Charleville-Mézières, en passant par Bruxelles-Charleroi en avion. Et puis, comme souvent, quand je prends l'avion, j'aime bien être du côté du houblot. Pourquoi ? Simplement parce que ça me donne toujours l'occasion de vivre la même sensation. Au départ, vous voyez des choses très, très proches dans leur grandeur nature. Et puis, vous prenez de la hauteur, du recul, puis elles vous semblent minuscules. Et puis, plus vous vous élevez, et puis elles semblent être dérisoires, des petits points. Et je me dis comment Thomas Pesquet, lui, nous voit depuis l'espace quand il est. C'est toujours une parabole pour moi, c'est-à-dire une parabole de la vie, savoir prendre de la hauteur, savoir prendre du recul, savoir relativiser, voir les choses, pas seulement telles qu'elles se donnent à nous, mais pouvoir les voir dans la proportion de l'immensité de l'œuvre de Dieu et de nos vies. Il en va ainsi de toutes les réalités que nous sommes appelés à vivre, et je voudrais prolonger les lignes de la prédication, en fait des prédications que nous vivons en ce moment sur la thématique de devenir un disciple émotionnellement sain. J'ai écouté avec vraiment beaucoup de joie la très belle prédication de notre cher frère et pasteur émérite, comme on dit maintenant, donc retraité, Norbert, hein, qui nous a, à partir du psaume 139, parlé de ce Dieu merveilleux, illimité, lui seul, omnipotent, tout-puissant, si vous voulez, omniprésent, capable d'être partout présent, omniscient, capable de savoir toutes choses. Ce Dieu merveilleux qui subjugue vraiment le psalmiste, et pourtant ce Dieu qui s'intéresse à toute sa création, et ce Dieu qui s'est intéressé à chacun de nous dès le sein maternel. Et le psalmiste a vraiment une parole qui défie toute compréhension de la modernité. Il n'a pas attendu l'échographie pour prendre conscience de la vie prénatale et de dire « C'est toi qui m'as tissé dans le sein maternel ». Il n'a pas attendu tous nos débats éthiques pour dire « quand je n'étais qu'une masse informe, informe, insignifiante, un amas de cellules indifférenciées, tu me connaissais déjà. Et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre de vie. » Tous nos jours, le commencement et la fin échappent à notre contrôle d'une certaine façon. Et ce n'est pas rien que l'homme et l'être humain, dans sa tentative de contrôle, veuille contrôler absolument ce mystère de la vie, de son commencement à sa fin. Ce matin, nous allons méditer plutôt la fin. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi, ce type de sujet. J'en ai un peu marre, mais c'est comme ça. Quand j'ai fait le planning de cette série de prédications, ben vous savez que je prêche une fois sur deux pour honorer aussi nos frères qui prêchent, que j'ai trouvé. J'aimerais dire nos frères et sœurs, mais ça va venir, qui prêchent. Amen, ça va venir. Un autre changement, ça va venir. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Donc, vous dites amen en espérance, je vais vous rejoindre dans cette espérance-là. Amen. Et donc, dans cette thématique, où Norbert nous a donc rappelé la semaine dernière que nous ne sommes pas illimités, seul Dieu l'est, que nous nous sommes finis. Il nous a parlé de nos limites et de pouvoir vivre nos limites à la lumière de ce Dieu illimité et avec une certaine sérénité, tranquillité. Et dans nos limites et dans notre finitude, il y a la réalité de cette limite douloureuse qui est la mort. Et nous allons parler de ça ce matin. Que faire de nos deuils et de nos chagrins? Comment naviguer à travers les étapes de la perte? Dans le livre de Peter Scazzero, qui nous inspire dans ce parcours, qui nous accompagne librement, il partage cette histoire que je vais partager, qui me permet d'être un peu distancié par rapport à mes propres deuils, sinon je ne vais pas y arriver. C'est l'histoire de Jerry. C'est la slide 2. Merci beaucoup. Jerry et Linda Sisser, accompagnés de leurs 4 enfants âgés de 2 à 8 ans, roulaient dans leur camionnette sur une route déserte de l'Idaho. Y compris que c'est aux États-Unis. La mère de Jerry était aussi dans la voiture. Ils venaient de visiter une réserve indienne pour un projet scolaire relatif à leurs 2 aînés. La famille en or, tout leur souriait. Ils avaient pris la route du retour depuis 10 minutes lorsque Jerry remarqua une voiture qui venait vers eux extrêmement vite. Jerry ralentit dans une courbe. Mais la voiture qui arrivait et fonçant à 130 km/h rentra de plein fouet dans leur camionnette. Le chauffard était ivre. En un instant, Jerry perdit 3 générations. Sa mère, sa femme, leur fille de 4 ans. Jerry a écrit ceci. En une seconde, ma famille, telle que je l'avais connue et aimée, fut anéantie. Il resta sur cette route déserte en les regardant mourir. Au procès qui s'ensuivit, le conducteur de l'autre véhicule fut finalement déclaré non coupable et laissé en liberté parce qu'il n'avait pu être prouvé, autant pour moi, sans l'ombre d'un doute, vous savez la question du doute qui doit bénéficier à la défense, sans l'ombre d'un doute que c'était lui qui conduisait la voiture et non sa femme enceinte qui était morte dans cet accident également. Nous n'avons peut-être pas la même expérience que Jerry et sa famille, mais nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à la réalité de la perte. Il y a différents types de pertes, différents types aussi de deuil. Ici, là, je ne suis pas exhaustif, c'est juste quelques exemples. Nous pouvons être endeuillés parce que nous avons perdu un proche, un être cher, et parfois même avant sa naissance. Lorsque je faisais mon stage de conseiller conjugal et familial au centre de planification de la clinique mutualiste à Grenoble, il m'a été donné d'être en situation d'écoute d'une souffrance inouïe d'une maman qui venait d'apprendre que l'enfant qu'elle portait dans son ventre était touché d'une pathologie létale, mortelle, irréversible, et qui tout d'un coup voyait toute cette grossesse basculait vraiment du côté qu'elle n'avait pas anticipé et le sol se dérobait sous ses pieds. Nous avons été appelés avec la cellule psychologique, donc d'écoute et de soutien, pour entourer cette maman qui était kiné respiratoire et donc qui savait également ce que venait dire cette hernie diaphragmatique qui avait été mise en évidence et qui faisait qu'une partie donc, des viscères écrasait le poumon de cet enfant et qu'à mesure qu'il se développait, il y avait cette pression sur ses poumons qui faisait que de toutes les façons, il risquait de mourir in utero. Il fallait prendre un certain nombre de décisions qui ne pouvaient pas être prises à l'instant. Il fallait attendre encore l'avis d'un comité pluridisciplinaire et entrer dans un parcours pour comprendre ce qu'il avait lieu de faire. Deux options, une interruption médicale de grossesse ou alors porter jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, jusqu'au décès in utero ou juste après la naissance de cet enfant. J'étais né ici à une problématique que je n'avais jamais vécue ni accompagnée pastoralement, qui a été l'objet de mon mémoire professionnel, la place du conseiller conjugal et familial dans l'accompagnement du deuil périnatal, le cas de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse. Le deuil peut nous percuter même avant que la vie sociale, la naissance, ne soit là, et c'est une épreuve dont on ne parle pas souvent dans nos églises. Le berceau peut rester vide, et je ne veux pas ici être source d'anxiété pour les parents qui seraient en attente d'un enfant. Considérons que cette réalité qui est dite n'est pas une parole pour vous en tant que telle, parce qu'il n'y a pas rationnellement de lien avec vous, avec votre histoire, elle peut être tout autre. Que le Seigneur vous donne sa confiance. Ça peut subvenir en bas âge, comme cela a été le cas pour mes parents. J'ai perdu un frère qui était âgé de 8 ans, s'appelait Eric. Il est décédé suite à un dosage malheureux de l'anesthésie générale pour une opération relativement bénigne. J'étais dans le ventre de ma mère, elle était à son 6e mois de grossesse. Il peut arriver beaucoup plus tôt, j'ai perdu une sœur, Carole, que j'ai connue, la seule petite sœur que j'aurais pu avoir, elle avait 2 ans. Il peut arriver plus tard encore, j'ai perdu une sœur, Paulette, elle avait 39 ans. J'ai perdu un frère, Alain, il avait 40 ans. Un dépeuplement terrible. Ça peut nous toucher, il n'y a pas de logique. J'ai perdu un père, il avait 65 ans. On ne peut pas considérer qu'il y a un ordre des choses. J'ai perdu une grand-mère, elle avait 88 ans. J'ai souffert de tous ces deuils différemment, certes, mais j'ai souffert. Et on pourrait considérer qu'à 88 ans, 90 ans, ça va de soi, c'est l'ordre des choses. Et qu'avant la naissance, c'est certainement plus grave, plus intense, parce que ce n'est pas du tout l'ordre des choses. En réalité, d'où que viennent nos deuils ? Un deuil est un deuil. Et chaque deuil est singulier. Et chaque deuil se vit dans cette singularité de l'être humain avec qui il est et avec son histoire. Et c'est pour ça que Dieu a voulu faire de nous, non pas des clowns, les uns des autres, mais des êtres uniques. Seul chacun peut parler depuis le lieu de son deuil, de son chagrin, de sa souffrance. Et ça, c'est vrai aussi bien au sein d'une famille, d'un couple, d'une église. Le même événement qui nous percute peut résonner et nous rejoindre de manière tellement différente. Mais le deuil n'est pas seulement la perte d'un être cher, ça peut aussi être la perte d'une relation significative, peut être irréversible. Le divorce peut être vécu, dans certains cas, pour certains, comme un deuil. La séparation d'avec des amis pour des enfants lors des déménagements peut être vécu comme un deuil. La perte de l'emploi peut être le lieu d'un deuil. La perte de la santé, ce corps oublié lorsqu'il est en bonne santé et qui se réveille à nous comme un corps vivant et fragile, lorsqu'on a perdu la santé, peut être le lieu d'un deuil. Il y a donc différentes formes de deuil, différents types de deuil, mais quelle que soit la nature de ces deuils, d'où qu'ils viennent, un deuil est un deuil. Et parfois, dans nos vies, y compris dans nos églises, on pourrait considérer que le deuil est juste une parenthèse. Et qu'il est temps de fermer la parenthèse et de passer à autre chose. Et en tant qu'Église, peut-être parfois ne prenons-nous pas assez le temps des lamentations. Peut-être que dans notre société qui baigne dans les distractions, dans la consommation, dans les promesses de croissance, peut-être que la mort escamotée, cachée, ne nous prépare pas assez à reconnaître et à prendre le temps de nos deuils et de nos chagrins. Une église qui perd un pasteur, par exemple ici, nous avons perdu le pasteur qui a été avec une équipe au début de cette œuvre. C'est un deuil et je sais combien cela reste un deuil pour beaucoup d'entre nous. Un deuil qui peut être d'autant plus insupportable si on ne nomme plus l'absent. Comme si tout était effacé, balayé. Nous avons besoin de prendre ces temps de deuil au sérieux. Un pasteur, en fin de son ministère, un nouveau pasteur qui arrive, un jeune, pour certains, c'est un deuil. Alors je vous rassure, Norbert est encore bien vivant, et plus que jamais bien vivant, n'est-ce pas? Mais vous voyez, l'Église là passe par une transition qui nous travaille. Et pour certains, ils sont endeuillés, d'une certaine façon, de la relation spécifique à ce pasteur ou à sa prédication. Parce qu'il va prêcher moins souvent, vous l'avez remarqué. Un changement de salle peut être le début d'un travail de deuil pour toi ou déclencher quelque chose dans ce sens, un peu de légèreté. Peter Scazzero a dit cette phrase qui a sonné beaucoup en moi. Les deuils que l'on ne déplore pas s'accumulent dans notre âme comme de grosses pierres qui nous lestent. Les deuils qu'on ne déplore pas s'accumulent dans notre âme comme des grosses pierres qui nous lestent. Quand nous négligeons de nous en occuper, poursuit-il, il nous empêche de vivre librement et honnêtement avec Dieu et avec les autres. Quand nous négligeons de nous en occuper, il nous empêche de vivre librement et honnêtement avec Dieu et avec les autres. J'aimerais à présent que nous puissions écouter une lamentation. Puisque la Bible a même, oui, décidé. Oh, tu peux revenir à oui, merci. Je vois que mes slides se sont inversés un peu dans mon plan ici. Nous allons donc effectivement avoir un éclairage biblique de la traversée de la perte, parce que derrière ce que nous appelons le deuil, il y a une problématique fondamentale qui est celle de la perte irréversible de l'objet aimé, de la personne aimée ou du lien. Et cette irréversibilité de la perte, ce n'est pas juste un au revoir, on se voit demain matin, c'est quelque chose qui va m'échapper durablement. Et une situation va se produire qui n'avait peut-être pas à se produire. L'impensable est arrivé, l'irréparable est là. Et comment je vais vivre avec cet irréparable? Il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé dans l'histoire, dans le temps, dans ma vie. Et qui va marquer le début d'un chemin de deuil. Et la Bible peut-elle nous éclairer? La Bible peut-elle nous accompagner à vivre avec nos deuils, nos pertes, nos chagrins? Je pense que la réponse est oui et nous allons voir en quoi. Alors, lisons ensemble. Lamentation de Jérémie chapitre 3, lira d'abord les 18 premiers versets. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous le bâton de sa colère. Il m'a conduit. Il m'a fait aller non pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Contre moi, il tourne et retourne sa main sans cesse. Il a flétri ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il m'assiège. Il m'a encerclé de poison et de lassitude. Il me fait habiter dans les ténèbres comme les gens d'autrefois qui sont morts. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille, il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans son repaire. Il a détourné mes pas, il m'a déchiré. Il m'a livré à la dévastation, il a tendu son arc et m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans les profondeurs de mon être les traits de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple. Je suis sans cesse l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a abreuvé d'absinthe. Sur le gravier, il m'a cassé les dents. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur et j'ai dit, ma majesté a disparu. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je remercierai une personne du service fond de salle ou d'accueil de m'apporter une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère sœur ou frère. Juste une ou deux généralités importantes. J'ai ici le livre « Les derniers instants de la vie » chez Labor et Fides de Elisabeth Kubler-Ross, donc cette éminente professeure de psychiatrie qui a beaucoup travaillé sur la question du deuil, qui a enseigné la psychiatrie à l'Université de Colorado, qui a mis en place un certain nombre de séminaires. Et elle est surtout connue pour avoir, théorisé les différentes étapes du deuil. Si on me suit à la vidéoprojection, ça va s'afficher. Notamment ces 5 voire 6 étapes du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, et puis un sixième sens, enfin, une sixième étape, peut-être la quête du sens. Les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross ont d'ailleurs étayé beaucoup de réflexions à propos du deuil, notamment de ce qu'on appelle la courbe du deuil, c'est-à-dire une sorte de schématisation un peu de ce que certains, j'aime pas l'appellation, appellent le travail du deuil, mais en tout cas une schématisation de la traversée des deuils. L'annonce avec ce choc qui a pratiquement une valeur trauma, une fonction de trauma, et puis il y a ce déni, on dit c'est bon Dieu, c'est pas possible, c'est pas vrai, et puis il y a cette colère où on dit mais pourquoi? Pourquoi moi ? On dit c'est injuste. Et puis il y a cette peur, culpabilité aussi, où ça nous renvoie à notre propre finitude, où on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais aussi surtout, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas su dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas su faire ? Pourquoi je n'étais pas là ? Norbert nous a dit combien il avait été bouffé un peu par cette culpabilité lorsqu'une sœur de l'Église est décédée dans son temps de congé pastoral et qu'il était en voyage. Il dit, mais j'aurais dû être là, mais je ne pouvais pas être là et accepter que nous ne sommes pas omniprésents, Dieu seul peut l'être. Et puis il y a cette tristesse où on est au fond du trou dans cette courbe qui est plutôt une dépression, c'est la dimension dépressive du deuil, cette perte d'énergie et du goût de la vie, cette apathie, cette dévitalisation en quelque sorte. Et puis peut-être là, on va arriver vers une phase qui est l'acceptation au sens non pas d'accepter en disant c'est une bonne chose qui s'est passée, au sens de l'intégration de la perte comme faisant partir de la vie, l'intégration de la mort dans nos représentations de la vie, l'acceptation que cette réalité de la mort fait bien partie de la vie, et puis peut-être aussi trouver un chemin pour, s'il y a culpabilité, de pardon et de renouveau. J'attire juste notre attention sur le fait que ces différentes phases dans la réalité sont souvent confuses et il y a énormément de va-et-vient. Et c'est un peu comme quand on va en Bretagne, on peut vivre toutes les saisons dans la même journée et parfois même en une même heure. Donc il est hors de question de prendre ça pour essayer de voir si vous avez progressé ou si la personne que vous voulez accompagner en souffrance est en train de faire pas après pas. Donc ça, c'est vraiment le propre des schématisations, mais le réel est beaucoup plus complexe et la réalité est beaucoup plus complexe. Donc je vois certains prendre la photo de cette slide. Attention, attention, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez accompagner une personne en deuil, peut-être faites-vous former, non pas 3 ans et tout, mais voilà, essayez d'avoir une formation sur comment, qu'est-ce que le deuil, qu'est-ce que ça fait vivre et comment, quelle est la bonne posture pour accompagner peut-être un proche ou quelqu'un qui est sur votre chemin. Je vais maintenant m'arrêter, je vais revenir au témoignage biblique et je vais développer 3 idées en essayant de suivre aussi Peter Scazzero. Donc je ne vais pas être original, mais voilà, je vais essayer de restituer aussi ce que j'y ai trouvé dans sa réflexion, mais à partir de mes propres mots, de ma propre expérience. L'une des premières choses que l'on peut dire, à la lumière de l'Écriture, ça sera la première partie, c'est qu'elle ne détourne pas, elle n'invite pas les chrétiens, le croyant, à détourner le regard de la réalité du deuil, et donc de la mort, du deuil, du chagrin, de la colère, de ses émotions, de tous ces éprouvés. La Bible ne nous interdit pas cette réalité d'être en face de nos malheurs. Et même plus que ça, la Bible nous tend un micro, un mégaphone même s'il le faut, pour nous dire, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous traverse. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce que nous disent la présence dans le corpus biblique des livres de lamentation de Jérémie, qui a donné en français les Jérémiades, le livre de Job, que nous allons traverser rapidement, les psaumes. 2/3 des psaumes sont souvent des prières, des cris de détresse, de colère, d'émotion. Qui nous a dit que pour être des disciples émotionnellement sains et spirituellement matures, nous devons refouler nos émotions? Qui nous a dit que nous devons sublimer par le mysticisme religieux nos peines? Il me semble que l'Écriture met devant nous, calmement, sereinement, cette réalité. Et l'auteur des Lamentations de Jérémie, la tradition attribue ce livre à Jérémie lui-même, dès le premier chapitre de son livre, nous invite à regarder la situation catastrophique de Jérusalem. Il représente Jérusalem comme une épouse endeuillée, une veuve abandonnée, amputée, non seulement de son époux royal, le Seigneur qui semble ne plus être présent, mais également de ses enfants, les princes, et aussi de ses alliés d'autrefois. La situation catastrophique de l'exil babylonien que Jérémie a bien connue est comparable à la besogne de la mort. La beauté de Jérusalem pâlit. L'unité du peuple, de la nation, est disloquée, démembrée. C'est un peu comme cette dislocation de l'unité anthropologique, de l'unité de l'homme, de l'être humain, au moment de la mort, où corps, âme, esprit sont désunis d'une certaine façon. Le pays est à terre, comme le deuil nous met souvent à terre, prostré dans sa détresse. Et l'auteur partage et fait entendre ici sa plainte sous la forme poétique d'une complainte. Suivant les éditions, vous avez 5 ou 6 chapitres du livre des Lamentations. J'étais encore intéressé de revoir comment l'auteur a structuré. Chaque chapitre est structuré en 22 strophes où l'auteur prend strophe par strophe les lettres de l'alphabet hébraïque de Aleph à Tav, de A à Z. Comme s'il a décidé de faire entendre sa plainte de A à Z, d'aller jusqu'au bout de l'expression de son chagrin. Coram Deo, devant Dieu. Toute sa vie devant Dieu, toutes ses émotions devant Dieu, toute sa plainte devant Dieu. Et le chapitre 3, que le livre est 5 chapitres ou 6 selon les éditions, est la partie centrale de cette complainte. Le compositeur parle ici à la première personne du singulier. Je suis l'homme. S'il y a quelqu'un qui peut parler de ces malheurs, c'est bien moi. Je suis cet homme-là. Et non seulement il peut en parler en jeu, mais il devient aussi, dans son humanité éprouvée, la voix des sans-voix. C'est Aimé Césaire, chantre de la négritude, qui disait dans un magnifique livre, « Ma voix sera la voix de ceux qui n'ont plus de voix, ma liberté, la liberté de ceux qui tapissent sur le cachot du désespoir. Et c'est un peu ce que le prophète vit ici. Il devient la voix de Jérusalem qui n'a plus de voix, qui est terrassée par l'épreuve. Et il dit sa souffrance et aussi celle de son peuple. Il n'est pas en dehors de l'humanité éprouvée. Et il va exprimer ici son désarroi. Il se sent perdu. Il est désorienté par cette épreuve. Il dit que le jour, pour lui, est devenu ténèbres. Il ne sait plus qu'est-ce qui est du jour, qu'est-ce qui est de la nuit. Les temps sont chamboulés, les repères sont brouillés. Et puis, il en veut à Dieu, mais il ne le nomme pas directement. Il vient un peu de biais. Il utilise la troisième personne du singulier, vous l'avez noté dans la lecture. Il a fait ceci, il m'a fait ceci. Mais de qui il parle? Mais plus loin, il arrive droit au but. Dieu, je t'en veux. Tu étais où? Et pourquoi tu ne m'as pas écouté? Et pourquoi tu n'entends pas ma prière? Il dit clairement, j'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Les Jérémiades du compositeur, sa souffrance nous rappelle aussi la vie d'un certain Job, figure du juste homme intègre au milieu des hommes. Job est atteint par l'injustifiable réalité du mal. Une avalanche de catastrophes se déchaîne sur lui. D'abord ses possessions, petits et gros bétail, puis ses enfants, puis sa santé. Et si Dieu le permet d'une manière énigmatique qui nous est dévoilée, énigmatique pour Job qui ne comprend pas ce pari fou, en quelque sorte, dont il a été pris comme objet, derrière les événements, derrière ce déchaînement de souffrance, ce n'est pas Dieu, mais c'est bien le diable qui tire les ficelles. Avec un seul projet, entraîner Job vers la chute de la confiance de sa foi. Maudit Dieu! Il va s'y prendre deux fois. La première fois, il dit, c'est parce que tu l'as béni, regarde sa prospérité, touche ses biens, sa maison, machin. Oh, Dieu dit, vas-y, mais tu ne toucheras pas sa vie. Et Job reste fidèle. Il dit, l'Éternel a donné, il a repris. Il ne sait pas que c'est Satan qui est en train de reprendre ce que l'Éternel a bien donné. Le Seigneur a permis, ce n'est pas la même chose. Puis il lui dit, mais puis ses enfants aussi y passent. La maison s'effondre sur eux. Et puis il vient et dit, bon, ça n'a pas marché, mais un homme donnerait tout ce qu'il possède pour sa santé. C'est pas faux. Si avec l'argent, on pouvait se payer vraiment une santé indéfectible, indestructible, on le ferait. Il y a beaucoup qui paieraient, qui donneraient tout pour être soignés, sauvés d'une maladie vilaine. Il dit alors, touche son corps, touche sa chair et tu verras. Dieu dit, écoutez, à condition que tu ne touches pas à sa vie. Et Job a des ulcères violents et autres. Il va être démoli par l'épreuve terrible et injuste dont il est l'objet. À un point tel que les amis de Job, le texte va nous dire que les amis de Job qui s'approchent ayant appris son malheur ne l'ont pas reconnu. On lit ça en Job 3, ce n'est pas affiché. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ça, ce sont ses amis. Ayant levé les yeux sur lui de loin, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel. C'est comme ça que les Juifs font le deuil. Bibliquement, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose d'honteux, c'est quelque chose qui doit se voir, qui s'exprime pour eux. C'est quelque chose qui appartient à la vie sociale et publique, pas simplement un événement intime, désocialisé, non reconnu, mais un événement signifié de manière visible et de manière socialisée. Ils s'assirent avec lui par terre et pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui dit un mot, personne, car il voyait que sa douleur était très grande. Au début, les amis de Job vont avoir la juste posture, la juste attitude, celle que la Bible nous dit, pleure avec celui qui pleure. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Mais s'ils sont venus voir un ami souffrant, un ami qui pleure, et il pleure avec lui. Il se lamente avec lui. Et puis, 7 jours sans silence. C'est la preuve que moi, je n'étais pas parmi eux. Hein. Parce que moi, j'aurais ouvert ma bouche. Hein. Malheureusement, j'aurais pas été aussi bon. D'ailleurs, parfois, on a l'impression que quand on se tourne vers le pasteur, c'est parce qu'on veut qu'il ouvre la bouche. Et c'est faux. On veut peut-être simplement qu'il ouvre l'oreille, qu'il entende, qu'il soit témoin d'une détresse. Ils vont rester dans le silence. Leur projet initial nous avait été partagé. Ils se concertaient pour aller le plaindre. Donc la première partie a été remplie. Ils l'ont plaint, ils l'ont pleuré avec lui. Mais ils avaient un deuxième projet, le leur. Le consoler. Le consoler. Et c'est ça qui va être compliqué. Pendant 7 jours, ils se disent, on va voir s'il se calme un peu. Si ce n'est qu'une parenthèse. Mais Job refuse cette épreuve terrible comme une parenthèse dans sa vie. Il refuse que ce soit juste un point de suspension de sa vie. C'est toute sa vie qui a mal. Il a mal à toute sa vie. Cette épreuve l'amène d'ailleurs à maudire le jour de sa naissance et il va dire « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, des seins pour m'allaiter ?» Je serai couché, je serai tranquille, je dormirai alors, je pourrai me reposer avec les rois, les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées. Il dit, mieux vaut être mort. Mieux, il dit même plus, mieux vaut n'avoir jamais existé si c'était pour vivre ça. Alors là, les amis comprennent qu'il est inconsolable. Et là, ça va les titiller, ça va les déranger. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à faire fausse route parce qu'ils vont, mordicus, insister sur leur projet. Et à l'épilogue, donc pendant 33 chapitres, on est au chapitre 3, Dieu va intervenir au chapitre 38. Donc quand vous lisez le livre de Job, les malheurs tombent très rapidement entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Le chapitre 3, les amis arrivent, 7 jours, ils ne parlent pas, vous pouvez aussi fermer votre Bible et attendre un peu 7 jours. Vous revenez le 8e jour, et là ils parlent tout le temps. Tout le temps, ils prêchent à Job. Tout le temps, c'est comme un plaidoyer, un procès. Et ils disent à Job, mais Job, tu ne peux pas être plus juste que Dieu. Job, on n'a jamais vu de fumée quelque part sans feu. Ça n'existe pas. Job, il y a la fumée dans ta maison, certainement, il y a une raison pour ça. Si ce n'est pas toi qui as péché, ce sont tes enfants. Dieu est juste, ça ne peut pas t'arriver s'il n'y a rien à dire sur ta vie, rien à redire. Et Dieu dira à l'épilogue au chapitre 42, à ses amis, à deux fois, vous n'avez pas correctement parlé de moi à Job. Vous avez eu tort. Vous n'avez pas correctement parlé de moi. Et maintenant, il va falloir que vous fassiez une offrande, un culte spécial pour demander pardon. Un culte de repentance spécial. Parce que tes propos n'ont pas été rendus vérité à Dieu. Et c'est Job qui va être le prêtre, le médiateur, qui va prier, qui va les bénir. Et Dieu dit, ça, c'est pour que je ne vous détruise pas. Si j'ai encore quelque compassion à votre égard, vous les amis, c'est à l'égard de Job qui, lui, est resté mon serviteur dans la tempête. Waouh, il y a des choses à nous dire ici. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, rapidement? C'est qu'il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter, pour détester. Et ce temps n'est pas mon temps, c'est le temps de celui qui traverse cette épreuve. Je ne suis pas envoyé par Dieu pour dire « il faut fermer la parenthèse ». Je ne suis pas envoyé par Dieu pour dire « tu pleures encore, tu te plains encore, ce n'est pas mon rôle ». La Bible sait et Dieu sait qu'il y a un temps pour se lamenter, un temps pour détester, pour haïr, un temps pour faire la guerre, un temps pour toutes ces choses. Et puis viendra au temps de Dieu, quand il fera cheminer l'éprouvé, l'endeuillé, viendra un autre temps qui ne nous appartient pas. Et c'est ce que nous dit aussi ces textes, ces exemples. Deuxième chose importante, c'est que Dieu est capable d'entendre notre plainte et notre révolte. Les amis de Job vont se lancer dans ce qu'on appelle en jargon théologique une théodicée. C'est-à-dire qu'ils vont un peu se lancer dans une justification de Dieu. Comme si Dieu les a envoyés en disant, purée, c'est pas cool ce que Job est en train de dire, il a oublié toutes mes bénédictions, maintenant c'est moi qui l'accuse, allez me défendre auprès de Job. Dis-lui que je suis un Dieu bon, dis-lui que je suis un Dieu juste, dis-lui qu'il est ingrat, dis-lui. Non, nous ne sommes pas les avocats de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour une théodicée. Il accepte dans son amour et dans sa grande miséricorde que les perturbations, la désorientation, la désorganisation consécutive au deuil nous poussent même à l'investir, lui, le Dieu bon, comme étant le mauvais objet, comme le Dieu mauvais. Il est capable d'entendre ça. Il est capable de souffrir ça de notre part parce qu'il sait ce que le deuil peut faire à un cœur. Nous ne sommes pas approchés d'un Dieu qui n'a pas connu le deuil, mes amis. Nous sommes approchés d'un Dieu qui a été endeuillé. Et alors que nous allons vers Pâques, j'aimerais que nous nous rappelions pendant ces 40 jours de carême, même si nous n'avons pas cette tradition souvent, que nous louons, nous prions et nous marchons avec un Dieu qui connaît nos souffrances, qui connaît notre chagrin, et un Dieu qui, un vendredi, a été endeuillé. Les amis de Job, dans la deuxième partie de leur posture, ont été un contre-exemple. Et Job leur dit, il aurait mieux valu que vous fermiez la bouche. Vous seriez passés pour sages. Mais depuis que vous parlez, c'est que des débilités qui sortent de votre bouche. Vous êtes donc venus piétiner un homme à terre. Et Dieu donnera raison, je l'ai déjà dit, à Job. C'est un avertissement qui vaut pour nous tous. Dieu est capable d'entendre nos plaintes. Et tout au long de cette écriture, nous voyons que Dieu nous aime, il ne veut pas nous lâcher. Dans cette phase, nous voyons combien il est important d'exprimer et d'accepter la réalité douloureuse du deuil et de pouvoir exprimer sa plainte. Une deuxième phase que Jérémie va vivre nous est partagée dans la suite de son récit. Attendre en silence le secours du Seigneur. Au verset 19, il reprend sa plainte et on le voit cheminer. Souviens-toi, il avait terminé au verset 18 en disant « Je n'ai plus d'espoir dans le Seigneur ». Et là, au verset 19, à nouveau, il repart. Il dit « Souviens-toi. Souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante, de l'absence du poison, je m'en souviens bien, je suis abattu. Voici à quoi je réfléchis. Voici pourquoi j'attends. » Il va dire maintenant son espérance. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. C'est que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance ou grande est ta fidélité. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends ou c'est pourquoi je l'espère. Espera, mais attends-moi. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé, qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y a-t-il de l'espoir, qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'outrage. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige les humains et qu'il leur cause du chagrin. L'espérance du prophète n'est pas morte, mais la consolation pleine n'est pas encore là. Il est dans l'entre-deux. Et dans cet entre-deux, il médite sur ces événements. Il médite sur Dieu. Et il nous dit au moins 4 choses. D'abord, il nous dit que le mystère du mal, un théologien Henri Blocher, un théologien français, a parlé au sujet du mal, du mystère opaque. Comment comprendre l'irruption du mal et la permission du mal par un Dieu bon, souverain et omnipotent et tout-puissant? Face au mystère du mal, Jérémie nous dit que cette réalité ne remet pas en question la bonté de Dieu ni sa souveraineté. Dans sa méditation, il en est arrivé là. Plus il est allé au bout de sa plainte, et au bout de sa plainte, il rencontre à nouveau Dieu. Et il dit, malgré tout ça, tu es bon, tu es souverain, tu es fidèle. Et c'est important, parce que autrement, nous nous représenterions Dieu comme un pervers qui joue avec nous, qui fait de la roulette russe entre Satan et lui sur notre tête. Ce n'est pas le Dieu de l'Écriture. Ce n'est pas cette image de Dieu que la Bible veut nous donner. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas un Dieu de la fatalité ni de la perversion. Et c'est parce qu'il est capable de regarder à la bonté parfaite de Dieu, à sa juste souveraineté sur les événements et leur cours, que nous pouvons dire « Dieu n'est pas pervers ». Et comme il dit à la fin, il ne prend aucun plaisir dans nos afflictions. Nos afflictions ne veulent rien, ne disent pas que Dieu nous aime parce que nous souffrons. Il nous aime tout court, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a créés et nous a voulu. Deux autres choses qu'il nous dit, c'est que la désorganisation dans laquelle nous plonge le deuil ne durera pas pour toujours. Cet entre-deux n'est pas l'étape finale du plan de Dieu. Dieu ne nous accompagne pas pour nous laisser pour toujours dans cet entre-deux. Et alors, il nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Nous avons plein d'exemples dans la Bible de ceux qui ont appris à attendre. Noé a appris à attendre. Il a d'abord attendu que la pluie vienne selon la promesse de Dieu et puis il a attendu que les eaux désenflent. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour que Isaac leur soit donné. Joseph, en Égypte, injustement emprisonné, perdant des années de vie, plus de 20 ans de vie qu'il a perdu, a attendu que Dieu le relève et le conduise de la prison au palais pour être à la direction du pays. Moïse a attendu 40 ans de fugitif dans le désert pour que Dieu l'appelle « Va libérer mon peuple ». Et il a attendu encore 40 ans pour faire entrer le peuple à Canaan et lui de voir Canaan de loin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Anne, épouse de Pénina, a attendu des années pour avoir Samuel. Élisabeth a attendu des années pour avoir Jean-Baptiste. Job a attendu des années. Quand on lit le livre de Job et qu'on arrive à la fin, on pense que ça s'est passé juste en 33 jours. Mais Dieu ne lui a pas donné des fils qui étaient déjà majeurs. Hein. Donc ça a pris des années. Hein. Quand vous lisez qu'il a eu 10 enfants, 7 fils et 3 filles après, même s'il faisait un enfant par an, il faut quand même 9 mois en temps normal. Hein. Donc ça, cette affaire-là a pris beaucoup d'années de restauration. Donc parfois, entre deux pages de la Bible, il y a des décennies. Mes amis, il est minuit moins le quart dans notre monde et je ne dis pas ça en reprenant les mots du président Macron, mais je dis ça en redonnant, il n'a pas cité ses sources, notre président, mais c'est Martin Luther King qui l'a dit le premier. Il est minuit moins le quart. Quand il vivait déjà et quand il voyait ce monde ségrégué, injuste et tout, il dit il est minuit moins le quart et quelqu'un frappe à la porte. S'inspirant de cette parabole, de cette dame qui frappe et qui réveille un homme dans la nuit, son ami, pour lui dire « Rends-moi justice ». Il est minuit moins le quart, les amis, dans nos épreuves, dans nos chagrins. Ça veut dire que un autre jour vient bientôt. À partir de minuit, c'est un autre jour. Et comme des sentinelles, nous guettons dans la nuit l'aurore d'un jour nouveau. Mais cette aurore d'un jour nouveau passe à partir de l'ancien. C'est dans cet entre-deux perturbant que Dieu déracine notre volonté propre et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors que nous attendons l'avènement et le jour du Seigneur, il est en train, par tout ce que nous vivons, de déraciner notre volonté propre. Il dépouille des strates de notre faux moi, des masques, des carapaces. Il nous libère de nos liens malsains. Et c'est dans ces périodes d'entre-deux que nous sommes vidés au sens de la vidange. Et cette vidange a un seul objectif essentiel, dégager la place pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Regardons les choses en face. S'attendre à Dieu quand on est dans une forme de deuil défie l'instinct humain et défie les solutions rapides de yaka, yaka, yaka. Le yakarisme perd son sens. Ça va à l'encontre de la culture occidentale, de notre propension à faire notre volonté, à être autonome. Mais dans cet entre-deux, nous, ce n'est pas le moi, le moi, le moi que nous devons habiter. Et ce n'est pas pour rien que, alors qu'il laissait ses disciples endeuillés, il disait « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le paraclétos, un défenseur, un avocat. Il vous accompagnera. » Voilà pourquoi nous avons tant besoin du Saint-Esprit pour nous soutenir dans ces périodes. Il nous faut conclure maintenant, et j'irai très vite dans cette dernière phase, laisser l'ancien engendrer le nouveau. Le risque, c'est que dans l'entre-deux, nous nous perdions, nous nous fermions dans nos détresses à un point de ne plus voir Dieu. Dans l'entre-deux de nos détresses, fuir loin de Dieu ne guérit pas notre souffrance. Cela risque au contraire de la renforcer. L'enjeu pour nous, c'est d'habiter avec Dieu l'entre-deux de nos souffrances et de nos deuils. Alors nous laissons Dieu travailler à partir de l'ancien pour engendrer en son temps le nouveau. Et c'est ce qui me semble exprimé par Jérémie dans ses lamentations comme une confession de foi au verset 22-24 que nous lisons à nouveau. Ce que je veux retenir en mon cœur, dit Jérémie, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Le Seigneur est ma part et c'est pourquoi je l'attends. Dieu ne t'invite pas, comme on peut souvent l'entendre, à tourner la page. Dieu ne nous invite pas à effacer la page de l'ancien. Dieu ne nous invite pas à arracher l'ancienne page du livre de notre vie. Il nous invite à lui faire confiance. À travers les multiples pertes que nous traversons dans notre existence, il nous promet qu'il engendrera une saison et une réalité nouvelle. Jésus l'a dit avec cette image des semailles et des moissons. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il est donc important de ne pas considérer cet entre-deux comme l'étape finale de notre condition face aux pertes, au deuil, au chagrin qui nous terrasse. Face à la réalité de ces pertes, face à la réalité de nos souffrances, la Bible dresse devant nous la réalité de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, au cœur de notre foi et de notre espérance, il y a ce mystère glorieux du Christ crucifié, mort, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. En conclusion, nous retiendrons donc que si l'épreuve du deuil est réelle, elle peut aussi être maturante, au sens de nous rendre plus authentiques. Une traversée du deuil dans la présence de Dieu nous révèle toujours plus notre propre humanité. Elle nous révèle que nous sommes des vases d'argile. Elle nous révèle notre vulnérabilité. Elle nous révèle notre finitude. Et alors, elle nous autorise à être devant Dieu et devant nos frères et sœurs et devant le prochain en authenticité. Vase fragile, humblement. Et ce faisant, elle nous rend co-responsables de la façon avec laquelle les uns et les autres nous traitons. Vase fragile devant le Seigneur. Elle élargit aussi nos cœurs au sens de la compassion. L'un des risques avec des deuils compliqués, c'est de nous couper de nos émotions. Je me suis toujours demandé pourquoi certains ne parlent jamais de leur deuil et de leur souffrance. Peut-être ont-ils peur de tout lâcher, de tout vider. Mais je crois profondément que ce que je lis dans l'Écriture, c'est que le Seigneur recueille nos larmes, recueille nos émotions et élargit davantage notre compassion, notre cœur. Quand on a été endeuillé, quand on a traversé toutes ces catastrophes et ce dépeuplement, comme je l'ai été, comme d'autres l'ont été, comme vous l'avez été peut-être, les amis, croyez-moi, on sait l'essentiel des choses. Tant de débats futiles, tant de non-priorités remplissent nos vies. Nous passons parfois à côté de l'essentiel. Puisse en tout cas cette méditation nous donner de reconsidérer ce qui est essentiel et de donner nos priorités à l'essentiel. Vivre coram Deo toute notre vie. Aimer, être aimé, soutenir, tomber, se relever. Trouver dans tous les moments de notre vie sa présence. Aimer et être aimé par le Père. Prendre sa place au cœur de cette communion trinitaire. Là est l'essentiel, me semble-t-il. Alors nous pourrons continuer de marcher à travers nos deuils sans attendre une consolation parfaite et définitive ici-bas. Nous n'attendons pas ici-bas de nos frères et sœurs, de notre Église, une consolation parfaite, de personne d'ailleurs. Mais nous pouvons l'attendre du Seigneur au jour de son avènement. Telle est notre espérance. Je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul, avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour, selon les Écritures. J'avais commencé cette prédication en parlant de Jerry, Gerald Sitzer. Je voudrais lui donner le mot de la fin. Voici ce qu'il a écrit et ce sont ses mots. Il n'est donc pas vrai que nous nous retrouvons diminués par le deuil. Sauf si nous permettons au deuil de nous diminuer, de broyer notre âme jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le deuil peut aussi nous grandir. Je n'ai pas surmonté la perte de celle que j'aimais. Au contraire, j'ai absorbé le deuil dans ma vie, au sens où la terre reçoit la matière en décomposition, jusqu'à ce qu'il fasse partie de moi-même. Le chagrin a fait sa résidence permanente dans mon âme et l'a dilatée. C'est un peu un langage poétique. L'âme est élastique, comme un ballon. Elle peut se dilater au travers de la souffrance. J'aimerais proposer avec David, qui avait ce chant à cœur, que nous soyons accompagnés dans un temps de prière et peut-être d'accueil, à travers ce chant traditionnel qui a été chanté au cœur d'un désastre, dans ce bateau, le Titanic, au moment où il coulait. Et tu avais ce musicien qui prenait son violon et d'autres qui se mettaient à chanter « Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi ». On chante souvent ça dans les deuils, les enterrements, mais je crois que ce n'est pas le seul moment où on peut le chanter. En Église, ce matin, nous pouvons le chanter comme notre prière ensemble, pour nous et pour nous tous en tant qu'Église, en tant que corps, d'être au plus près de lui. Et que quand la souffrance fait son œuvre en silence, qu'il nous garde plus près et toujours plus près de lui. Amen.